Chapitre 88. L'homme qui maîtrisait les vents.
En 73-09-06-05, en 73-09-08-01, en 73-09-09-01, en 73-09-10-01, en 73-09-10-04, en 73-10-01-05, en 73-10-02-05. En 73-10-04-01, en 73-10-06-03, 11-73-10-08-04. Extrait du diagramme, coda du mur nord, région de l'appui de fenêtre. Paragraphe 2. Il semblerait qu'il s'agisse d'une série de dates, mais leur sens exact nous échappe encore.
Ils commencèrent bientôt à s'installer dans la tour. Ils ne pouvaient rien faire d'autre, quoiqu'Adeline soit loin d'avoir terminé ses explorations. La nuit approchait et la température baissait à l'extérieur. Par ailleurs, la tempête majeure qui avait frappé les plaines brisées devait être en train de dévaster la région et finirait par atteindre ces montagnes. Il fallait plus d'une journée pour que l'une d'entre elles traverse le continent tout entier, et il devait se trouver quelque part à proximité du centre. Par conséquent, elle devait approcher. Une tempête majeure imprévue, se dit Shallan, qui traversait les couloirs obscurs avec ses gardes, et quelque chose d'autre approche depuis l'autre direction. Elle était parfaitement consciente que cette tour, son contenu, chacun de ses couloirs, était un miracle de majesté. Qu'elle n'ait envie de dessiner rien de tout ça en disait long sur son état de fatigue. Elle n'aspirait qu'à dormir. La lueur de leur sphère révéla quelque chose d'étrange sur le mur qui lui faisait face. Shallan fronça les sourcils, ignora son épuisement et s'avança. C'était un petit morceau de papier plié, pareil à une carte. Elle regarda furtivement ses gardes, qui semblaient tout aussi perplexes. Elle retira la carte du mur. Elle avait été fixée en place au moyen de cire de charançon collée au dos. Elle trouva à l'intérieur le symbole triangulaire des sangs des spectres. En dessous figurait le nom de Shallan. Pas celui de voile, celui de Shallan. Panique, vigilance. En un instant, elle eut aspiré toute la flamme de leur lanterne, plongeant le couloir dans l'obscurité. De la lumière s'échappait cependant d'une porte toute proche. Elle la regarda fixement. Gaz fit mine d'aller enquêter, mais Shallan l'arrêta d'un geste. S'enfuir ou se battre? S'enfuir pour aller où? Se demanda-t-elle. Hésitante, elle s'avança jusqu'à la porte et fit signe à ses gardes, là encore, de rester en arrière. Emrès se tenait à l'intérieur, regardant par une grande fenêtre sans vitre qui dominait une autre section des entrailles de cette tour. Il se retourna vers elle, tordu, marqué de cicatrices et pourtant curieusement raffiné dans sa tenue d'aristocrate. Bon, on l'avait donc percé à jour. Je ne suis plus une petite fille qui se cache dans sa chambre quand les cris commencent à retentir, se dit-elle fermement en entrant dans la pièce. Si je prends la fuite devant cet homme, il me verra comme une créature à traquer. Elle s'avança jusqu'à lui, prête à invoquer motif. Il n'était pas comme les autres lames d'éclat. Elle s'en rendait compte à présent. Il pouvait apparaître plus rapidement que les 10 battements de cœur requis. Il l'avait déjà fait auparavant. Elle n'avait pas voulu reconnaître qu'il en était capable. Ça aurait impliqué trop de choses. Combien d'autres mensonges, se demanda-t-elle, me tiennent à l'écart de ce que je serais capable d'accomplir. Mais elle avait besoin de ces mensonges. Elle en avait besoin.
Vous m'avez bien fait courir, déclara Emrès. Si vos pouvoirs ne s'étaient pas manifestés pendant que vous sauviez l'armée, je n'aurais peut-être jamais localisé votre fausse identité.
Ces voiles. « Qui est ma fausse identité, Emrès ?» répondit Shallan. « Je suis moi. » Il l'inspecta.
« Je ne crois pas. »
Elle soutint son regard insistant, mais frissonna intérieurement.
« Vous vous trouvez dans une position très curieuse, » poursuivit Emrès. « Allez-vous cacher la véritable nature de vos pouvoirs ? Je suis parvenu à deviner ce qu'ils sont, mais d'autres seront peut-être bien moins informés. Ils ne verront peut-être que la lame, et ne se demanderont pas ce que vous pouvez faire d'autre.
Je ne vois pas en quoi ça vous concerne.
Vous êtes l'une d'entre nous, répondit Emrez. Nous nous occupons des nôtres.
Shallan fronça les sourcils.
Mais vous avez percé mon mensonge à jour.
Êtes-vous en train de dire que vous ne voulez pas faire partie des Cent des Spectres ?
Son intonation n'était pas menaçante, mais ses yeux, bourrasques, ils auraient transpercé la pierre.
Nous n'offrons pas cette invitation à n'importe qui.
Vous avez tué Jasnah, siffla Shallan.
Oui, après qu'elle avait elle-même assassiné un certain nombre de nos membres.
Dites-moi, Voile, vous ne pensiez tout de même pas qu'elle n'avait pas de sang sur les mains ? Elle détourna le regard et cessa de soutenir le sien.
J'aurais dû deviner que vous vous révéleriez être Shallan Davar, poursuivit Emrez. Je me sens très bête de ne pas l'avoir compris plus tôt. Votre famille est impliquée dans ces événements depuis longtemps.
Je ne vais pas vous aider, répliqua Shallan.
Curieux, vous devriez savoir que je détiens vos frères.
Elle leva brusquement les yeux vers lui.
Votre maison n'est plus, ajouta Emrez. Les terres de votre famille ont été prises par une armée de passage. J'ai secouru vos frères du chaos de la guerre de succession, et je les amène ici. Votre famille, cependant, a une dette envers moi. Inspiricante, brisée.
Il croisa son regard.
Comme il est pratique, petit couteau, que vous en soyez justement une, d'après mes estimations.
Elle invoqua motif. Je vous tuerai avant de vous laisser les utiliser pour me faire chanter.
Il n'est pas question de chantage, répondit Emrez. Ils arriveront ici sains et saufs. C'est un cadeau que je vous fais. Vous pouvez attendre d'en avoir confirmation par vos propres yeux. Je ne mentionne votre dette qu'afin qu'elle ait l'occasion de trouver prise dans votre esprit.
Songeuse, Shallan hésita, tenant sa lame d'éclat.
Pourquoi ? Demanda-t-elle enfin.
Parce que vous êtes ignorante.
Emrez s'approcha d'elle et la domina de toute sa taille.
Vous ne savez pas qui nous sommes, ni ce que nous cherchons à accomplir. Vous ne connaissez pas grand-chose en réalité. Voilà. Pourquoi votre père nous a-t-il rejoints ? Pourquoi votre frère est-il allé chercher les Clivecieux ? J'ai mené mon enquête, voyez-vous. J'ai des réponses à vous apporter.
À la grande surprise de Shallan, il se détourna d'elle et se dirigea vers la porte.
Je vais vous accorder le temps de la réflexion. Vous semblez penser que votre place nouvelle au sein des radieux vous rend inapte à faire partie des nôtres. Mais je ne partage pas votre avis, et mon babsque non plus. Que Shallan Davar soit donc une radieuse, noble et conformiste. Que Voile vienne à nous.
Il s'arrêta sur le pas de la porte.
Et qu'elle découvre la vérité.
Il disparut dans le couloir. Shallan s'aperçut qu'elle se sentait encore plus épuisée qu'auparavant. Elle renvoya motif et s'adossa au mur. Évidemment que Emrez était parvenu à arriver jusqu'ici. Il avait dû se trouver quelque part au sein des armées. Rejoindre Ouri Tirou avait été l'un des objectifs principaux des Cent des Spectres. Malgré sa détermination à ne pas les aider, elle les avait transportés en même temps que l'armée, à l'endroit exact où ils voulaient se rendre. Ses frères, seraient-ils réellement sains et saufs ? Et qu'en était-il des serviteurs de sa famille, de la fiancée de son frère ? Elle soupira, se dirigea vers la porte et rappela ses gardes. Et qu'elle découvre la vérité. Et si elle ne voulait pas la découvrir ?
Motif bourdonna tout bas.
Après avoir traversé le rez-de-chaussée de la tour, en utilisant sa propre lueur pour s'éclairer, elle rejoignit Adoline dans le couloir à côté d'une chambre, où il avait annoncé qu'elle le trouverait. Il avait le poignet enveloppé d'un pansement et les ecchymoses commençaient à virer au violet sur son visage. Elle rendait son charme légèrement moins grisant, quoique ça lui confère un air un peu sauvage, qui semblait dire « j'ai cogné pas mal de gens aujourd'hui », ce qui était attrayant en soi.
« Vous semblez épuisé », dit-il en lui déposant un baiser sur la joue.
« Et vous, on dirait qu'on s'est servi de votre figure comme d'un tambour »,
répondit-elle, mais avec le sourire.
« Vous devriez dormir, vous aussi. »«
Je vais le faire », répondit-il.
« Bientôt. » Il toucha le visage de Shallan.
« Vous êtes incroyable, vous savez. Vous avez tout sauvé.
et tout le monde. Pas la peine de me traiter comme si j'étais en verre. Adeline.
Vous êtes une radieuse, dit-il.
Je veux dire...
Il se passa la main dans les cheveux, qui étaient en désordre constant.
Shallan, vous dépassez même les pâles iris en envergure.
C'était une pique sur mon tour de taille?
Pardon?
Non, je voulais dire, je refuse que ce moment soit gênant, Adeline.
Mais...
Elle l'étreignit soudain et le força à l'embrasser. Un baiser profond et passionné. Il tenta de marmonner quelque chose, mais elle insista, appuyant ses lèvres contre les siennes, le laissant éprouver son désir. Il se laissa aller, puis la saisit par le torse et l'attira vers lui. Au bout d'un moment, il recula.
« Bourrasque, ça brûle !»«
Oh !» Shallan leva la main vers sa bouche, se rappelant les ecchymoses sur son visage.
« Désolé !»
Il sourit puis grimaça de nouveau, car c'était apparemment tout aussi douloureux. Mais ça en valait la peine. Enfin bref, je vous promets d'éviter d'être embarrassé, si vous évitez d'être irrésistible. Au moins jusqu'à ce que je sois guéri.
Marché conclu ?
Marché conclu.
Il se tourna vers les gardes de Shallan.
Personne ne dérange la clarissime radieuse, entendu ?
Ils hochèrent la tête.
Dormez bien,
dit-il en ouvrant une porte. Une grande partie des pièces était encore équipée de portes en bois, bien qu'elles soient abandonnées depuis longtemps. Avec un peu de chance, la chambre sera correcte. C'est votre Spren qui l'a choisi.
Son Spren ?
Shallan fronça les sourcils, puis entra dans la pièce. Adeline ferma la porte. Shallan étudia la chambre de pierre dépourvue de fenêtres. Pourquoi motif avait-il choisi cet endroit bien précis pour elle ? La pièce ne semblait rien avoir de particulier. Adeline y avait laissé une lanterne à fulgiflamme pour elle. Un geste extravagant, compte tenu du peu de gemmes allumées dont il disposait. Et elle lui dévoila une petite pièce carrée dotée d'un banc de pierre dans le coin. Il y avait quelques couvertures par-dessus. Où Adeline en avait-il trouvé ? Elle regarda le mur, songeuse. La pierre était ici décolorée au niveau d'une zone carrée, comme si quelqu'un y avait autrefois accroché un tableau. En réalité, ça lui semblait curieusement familier. Non pas qu'elle soit déjà venue ici, mais l'endroit où était placé ce carré sur le mur... C'était exactement le même emplacement que celui du tableau au mur de son père à Jacquévède. Ses pensées commencèrent à s'embrouiller.
« Hum !» lui dit Motif près d'elle depuis le sol. « L'heure est venue. »«
Non. »«
L'heure est venue. » répéta-t-il. « Les sangs des spectres vous cernent. Le peuple a besoin d'une radieuse. »«
Ils ont déjà un radieux. Le porte-pont. »«
Ce n'est pas suffisant. Ils ont besoin de toi. »
Shallan cligna des yeux pour en chasser les larmes. Contre sa volonté, la pièce se mit à se transformer. Un tapis blanc apparut. Un tableau au mur, des meubles, des murs peints en bleu pâle, deux cadavres. Shallan en enjamba un, bien qu'il ne soit qu'une illusion, et se dirigea vers le mur. Un tableau était apparu, qui faisait partie de l'illusion, et il était entouré d'une lueur blanche. Quelque chose était caché derrière. Elle écarta le tableau ou, du moins, essaya. Ses doigts ne firent que brouiller l'illusion. Ce n'était rien du tout. La reconstitution d'un souvenir qu'elle aurait préféré ne pas posséder.
Un meilleur mensonge, Shallan.
Elle ravala ses larmes. Ses doigts se levèrent d'eux-mêmes et elle les appuya de nouveau contre le mur. Cette fois, elle sentit le cadre du tableau. Il n'était pas réel. Pour l'instant, elle fit comme s'il l'était, et laissa l'image la capturer.
Je ne peux pas continuer à faire semblant.
Non. Il était là, dans la chambre de son père. Tremblante, elle écarta le tableau, dévoilant le coffre-fort dans le mur. Elle leva la clé et hésita.
L'âme de maman se trouve à l'intérieur.
Non, pas son âme. Ce qui a pris son âme. Shallan déverrouilla le coffre, puis l'ouvrit en tirant d'un coup sec, dévoilant son contenu. Une petite lame d'éclat, jetée à la hâte dans le coffre-fort, la pointe perçant le fond, la poignée tournée vers elle.
« C'était toi, »
murmura-t-elle.
« Oui. »«
Papa t'a pris à moi, » poursuivit Shallan.
et il a essayé de te cacher là-dedans. Évidemment, ça n'a servi à rien. Tu as disparu dès qu'il a refermé le coffre. Tu t'es changé en brume. Il n'avait pas les idées très claires. Moi non plus.
Elle se retourna. Un tapis rouge autrefois blanc. L'ami de sa mère reposait sur le sol, saignant au niveau du bras, bien que ce ne soit pas cette plaie qui l'ait tué. Shallan s'approcha de l'autre cadavre, tourné à plat ventre dans sa superbe robe bleue et or. Ses cheveux roux se déployaient en formant un motif autour de sa tête. Shallan s'agenouilla et retourna le cadavre de sa mère, pour se retrouver face à un crâne aux yeux brûlés.
Pourquoi a-t-elle essayé de me tuer, motif ?
Murmura Shallan.
Tout a commencé quand elle a découvert de quoi j'étais capable.
Elle se rappelait à présent l'arrivée de sa mère avec un ami que Shallan ne reconnaissait pas, pour affronter son père. Les cris de sa mère, qui se disputait avec son père. Maman qui appelait Shallan, l'une d'entre eux. Son père qui entrait brusquement. L'ami de maman avec un couteau. Une lutte entre les deux. L'ami qui recevait une entaille au bras. Du sang coulait sur le tapis. L'ami avait remporté ce combat, et il avait fini par immobiliser papa au sol. Maman avait pris le couteau et s'était dirigée vers Shallan. Et ensuite, une épée dans les mains de Shallan.
Il a fait croire à tout le monde que c'était lui qui l'avait tué, chuchota Shallan. Qu'il avait assassiné sa femme et son amant dans un éclat de rage, alors que c'était moi qui les avais tués. Il a menti pour me protéger.
Je sais.
Ce secret l'a détruit. Il a détruit notre famille tout entière.
Je sais.
Je te déteste,
murmura-t-elle en regardant fixement les yeux morts de sa mère.
Je sais.
Motif bourdonna tout bas. Au bout du compte, tu finiras par me tuer et tu auras ta revanche.
Je ne veux pas de revanche. Je veux ma famille.
Shallan s'entoura de ses deux bras, y enfouit sa tête et éclata en sanglots, tandis que l'illusion se dissipait dans un nuage de fumée blanche, avant de disparaître en la laissant dans une pièce nue.
Je ne peux que conclure, Restarès, écrivit Amaram à la hâte, en glyphes négligés dont l'encre s'étalait, que nous avons réussi. Les rapports de l'armée de Dalinar indiquent que les néantifères ont été non seulement aperçus, mais combattus. Yeux rouges, pouvoirs anciens. Ils ont apparemment libéré une nouvelle tempête sur ce monde. Il leva les yeux de son carnet et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Sa voiture entra dans le camp de guerre de Dalinar en cahotant. Tous ses soldats étaient partis, et ses gardes restants étaient allés superviser l'exode. Même avec sa réputation, Amaram était parvenu à entrer sans mal dans le camp. Il revint à son papier. « Ce succès ne me fait en rien exulter, » écrivit-il. « Des vies vont être perdues. Tel a toujours été notre fardeau, à nous, les fils d'honneur. Pour assurer le retour des héros et la domination de l'Église, nous devions plonger le monde dans une crise. Cette crise est ici à présent, une crise effroyable. Les héros vont revenir. Comment pourrait-il en être autrement, avec les problèmes que nous affrontons désormais ? Mais beaucoup vont mourir, une multitude. Plaise à Nalan que toutes ces pertes en vaillent la peine. Quoi qu'il en soit, je disposerai bientôt de davantage d'informations. La prochaine fois que je vous écrirai, j'espère le faire depuis Uri Tirou. La voiture s'arrêta et Amaram ouvrit la portière. Il tendit la lettre à Pama, la conductrice. Elle s'en empara et se mit à fouiller sa sacoche à la recherche de l'écho-calam pour envoyer cette communication à Restarès. Il aurait préféré le faire lui-même, mais l'on ne pouvait pas utiliser un écho-calam en mouvement. Quand elle en aurait fini, elle détruirait les papiers. Amaram lança un coup d'œil au mâle à l'arrière de la voiture. Elle contenait une précieuse cargaison parmi laquelle se trouvaient toutes ses cartes, notes et théories. Aurait-il dû les laisser auprès de ses soldats ? Amener une armée de 50 hommes dans le camp de guerre de Dalinar aurait indubitablement attiré l'attention, même avec le chaos qui régnait ici, si bien qu'il leur avait ordonné de le rejoindre dans les plaines. Il fallait qu'il continue d'avancer. Il s'éloigna de la voiture à grands pas et remonta le capuchon de sa cape. Les jardins du complexe du temple de Dalinar étaient en proie à une panique encore plus grande que la plupart des camps de guerre, car beaucoup de gens étaient venus trouver les Ardents en cette période de grande tension. Il croisa une mère qui suppliait l'une d'entre eux de brûler une prière pour son mari, qui se battait au sein de l'armée de Dalinar. L'ardente ne cessait de répéter qu'elle devait rassembler ses affaires et rejoindre les caravanes qui se préparaient à traverser les plaines. C'était en train d'arriver. Réellement, les fils d'honneur avaient enfin atteint leur but. Gavilar serait fier. Amaram pressa le pas et se retourna lorsqu'une autre ardente se précipita vers lui pour demander s'il avait besoin de quelque chose. Mais avant qu'elle puisse regarder sous son capuchon et le reconnaître, son attention fut attirée par deux jeunes gens qui se plaignaient que leur père était trop âgé pour entreprendre le voyage et suppliaient les ardents de les aider à le porter d'une manière ou d'une autre. Il atteignit le coin du bâtiment du monastère où l'on gardait les fous et le contourna jusqu'au mur de derrière, hors de vue, près de la bordure du camp elle-même. Il regarda autour de lui, puis invoqua sa lame. Quelques coups rapides permettraient de... Qu'est-ce que c'était que ça? Il pivota sur lui-même, persuadé qu'il verrait quelqu'un approcher. Mais ce n'était rien. Des ombres qui lui jouaient des tours. Il entreprit de taillader le mur, puis ouvrit prudemment l'accès qu'il venait de créer. Le très grand en personne, Tal-Nelat Elin, héros de la guerre, se tenait assis dans la pièce obscure, dans une posture très similaire à celle qu'il affichait auparavant, perché au bord de son lit, affalé vers l'avant, tête baissée. « Pourquoi faut-il qu'il vous maintienne dans une telle obscurité ?» demanda Amaram en renvoyant sa lame. « Ce n'est pas approprié pour les plus humbles des hommes, sans parler de quelqu'un tel que vous. Je vais devoir m'entretenir avec Dalinar au sujet de la façon dont les fous sont... » Non, il n'en ferait rien. Dalinar le prenait pour un meurtrier. Amaram inspira longuement et profondément. « Il y aurait des prix à payer pour voir le retour des héros. » Mais, par Jézérézé lui-même, la perte de l'amitié de Dalinar serait l'un des plus douloureux. Si seulement la clémence n'avait pas arrêté sa main, tous ces mois auparavant, lorsqu'il avait failli faire exécuter ce lancier. Il se hâta d'aller se placer aux côtés du héros. « Grand prince, chuchota Amaram, nous devons partir. » Tal-Nelat ne bougea pas. Il avait cependant recommencé à murmurer. Les mêmes mots que précédemment. Amaram ne put s'empêcher de se rappeler la dernière fois qu'il était venu ici, en compagnie de quelqu'un qui l'avait manipulé tout du long comme l'un des 10 fantasques. Qui savait que Dalinar était devenu si rusé avec l'âge? Le temps les avait transformés tous les deux. « Je vous en supplie, grand prince, » insista Amaram en aidant non sans mal le héros à se relever. L'homme était immense. Aussi grand qu'Amaram, mais bâti comme un mur. Sa peau brun foncé l'avait surpris la première fois qu'il l'avait vu. Amaram avait, non sans naïveté, cru que tous les héros seraient d'apparence allaitis. Les yeux sombres du héros étaient, bien entendu, une forme de déguisement. « La désolation !» murmura Tal-Nelat. « Oui, elle approche, et avec elle votre retour à la gloire !» Amaram entreprit de guider le héros vers l'ouverture. « Nous devons vous conduire jusqu'à... » La main du héros se tendit brusquement devant lui. Amaram sursauta et s'immobilisa, car il vit quelque chose entre les doigts du héros. Une petite fléchette, de la pointe de laquelle un liquide clair s'écoulait goutte à goutte. Amaram lança un coup d'œil rapide vers l'ouverture, qui laissait entrer la lumière du soleil dans la pièce. S'y trouvait une petite silhouette qui émit un bruit soufflant, tenant une sarbacane contre ses lèvres au-dessous d'un demi-masque qui lui couvrait le haut du visage. L'autre main du héros se leva, aussi rapide qu'un clin d'œil, et attrapa la fléchette en plein air à quelques centimètres à peine du visage d'Amaram. Les sangs des spectres. Ce n'était pas le héros qu'ils essayaient de tuer. C'était Amaram. Avec un cri, il tendit la main sur le côté pour invoquer sa lame. Trop lentement, La silhouette les regarda tour à tour, le héros et lui, puis détala avec un juron étouffé. Amaram la poursuivit, sauta par-dessus les décombres du mur et sortit à la lumière du jour. Mais la silhouette avançait trop vite. Le cœur cognant dans sa poitrine, il se retourna vers Talnelat, inquiet pour la sécurité du héros. Amaram sursauta lorsqu'il trouva celui-ci debout de toute sa hauteur, le dos bien droit, la tête levée. Ses yeux marron foncé, d'une stupéfiante lucidité, reflétaient la lumière de l'ouverture. Talnelat leva une fléchette devant lui et l'inspecta. Puis laissa tomber les deux fléchettes et se rassit sur son lit. Il se remit à marmonner son étrange mantra inchangé. Amaram sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais lorsqu'il rejoignit le héros, il ne parvint pas à le faire réagir. Au prix d'un effort, il le força à se relever et le conduisit jusqu'à la voiture. Seth ouvrit les yeux. Il les referma aussitôt. « Non, je suis mort, je suis mort !» Il sentit de la pierre au-dessous de lui. Blasphème. Il entendit de l'eau couler et sentit le soleil sur son visage. « Pourquoi ne suis-je pas mort ? » chuchota-t-il. « J'ai rompu mon lien avec la lame d'éclat. Je suis tombé dans la tempête sans attache. Pourquoi ne suis-je pas mort ?»« Vous êtes bien mort. » Seth rouvrit les yeux. Il reposait sur une étendue de pierre vide, et ses habits en désordre étaient trempés. Les terres gelées ? Il éprouvait un grand froid malgré la chaleur du soleil. Un homme se tenait devant lui, vêtu d'un impeccable uniforme noir et argent. Il avait la peau brun foncé, comme un homme de la région Makabaki, mais arborait sur la joue droite une marque pâle de la forme d'un petit croissant. Il tenait une main derrière son dos tout en cachant de l'autre quelque chose dans la poche de son manteau. Une sorte de fabrial qui luisait d'un éclat vif. « Je vous reconnais, comprit Seth. Je vous ai déjà vu quelque part. » « En effet. » Seth lutta pour se lever. Il parvint à se mettre à genoux, puis resta dans cette position. « Comment ? » demanda-t-il. « J'ai attendu que vous vous écrasiez à terre, répondit l'homme, que vous soyez brisé et mutilé, l'âme tranchée, mort sans le moindre doute. Ensuite, je vous ai ramené. Impossible. Pas si l'on s'y prend avant la mort du cerveau, de la même manière qu'on ramène un noyé à la vie avec les soins adéquats. Il était possible de vous ranimer à l'aide de la fluctomancie. Adéquate. Évidemment, si j'avais attendu quelques secondes de plus, il aurait été trop tard, mais vous devez déjà le savoir. Deux des lames que détient votre peuple permettent la régénération. Je soupçonne que vous avez déjà vu des morts ramenés à la vie peu après leur trépas. Il prononçait ces mots calmement, sans émotion aucune. Qui êtes-vous ? Demanda Seth. Vous passez tout ce temps à obéir aux préceptes de votre peuple et de votre religion, et vous échouez cependant à reconnaître l'un de vos dieux. Mes dieux sont les esprits des pierres, murmura Seth. Le soleil et les étoiles, ce ne sont pas des hommes. Ne dites pas de bêtises. Votre peuple vénère l'esprène de la pierre, mais vous ne les adorez pas, vous. Ce croissant, il le reconnaissait, n'est-ce pas ? Vous, Seth, déclara l'homme, vous vénérez l'ordre, n'est-ce pas ? Vous suivez les lois de votre société à la perfection. C'est ce qui m'a attiré, même si je crains que l'émotion n'ait perturbé votre discernement. Votre capacité de jugement. Nin, murmura-t-il, celui qu'on appelle Nalan ou Nal ici, héros de la justice. Nin hocha la tête. Pourquoi m'avoir sauvé ? Demanda Seth. Mon tourment n'est-il pas suffisant ? Ces mots relèvent de la bêtise pure, répliqua Nin, inappropriée de la part d'un homme qui souhaite étudier auprès de moi. Je ne veux pas étudier, répondit Seth en se recroquevillant sur la pierre. Je veux être mort. Vraiment, c'est en toute franchise ce que vous souhaitez le plus ardemment. Je vais vous l'accorder si c'est honnêtement ce que vous désirez. Seth ferma très fort les yeux. Les hurlements l'attendaient dans le noir, les hurlements de ceux qui l'avaient tué. Je ne me trompais pas, songea-t-il. Je n'ai jamais été avérite. Non, murmura Seth. Les néantifères sont bel et bien revenus. J'avais raison, et mon peuple, c'est lui qui se trompait. Vous avez été banni par des hommes mesquins, dépourvus de vision. Je vais vous enseigner la voie de ceux qui ne sont pas corrompus par les sentiments. Vous allez rapporter ceci à votre peuple et vous exercerez la justice sur les dirigeants des Chinoves. Seth ouvrit les yeux et leva la tête. Je n'en suis pas digne. Nin pencha la tête sur le côté. Vous, pas digne? Je vous ai regardé vous détruire au nom de l'ordre, obéir à votre code personnel, quand d'autres auraient fui ou se seraient effondrés. Seth, fils Neturo, je vous ai regardé tenir votre parole à la perfection. C'est une chose qui échappe à la plupart des gens, c'est la seule authentique beauté en ce monde. Je doute d'avoir jamais trouvé un homme aussi digne que vous des clives cieux. Les clives cieux? Mais c'était un ordre des chevaliers radieux. Je me suis détruit moi-même, murmura Seth. En effet, et vous êtes mort. Votre lien avec votre lame a été tranché et tous les liens, spirituels comme physiques, ont été défaits. Mais vous voici revenu à la vie. Suivez-moi. Il est temps que vous rendiez visite à votre peuple. Votre formation commence immédiatement. Nin entreprit de s'éloigner, dévoilant que l'objet qu'il tenait derrière son dos était une épée dans son fourreau. Vous voilà revenu à la vie. Se pouvait-il que Seth le soit réellement? Se pouvait-il qu'il chasse les hurlements dans les ombres? Vous êtes un lâche, avait dit le radieux, l'homme qui possédait les vents. Une petite partie de Seth le croyait, mais Nin lui offrait davantage, quelque chose de différent. Toujours agenouillé, Seth leva les yeux pour le suivre du regard. Vous avez raison. Mon peuple possède les autres lames d'honneur et les garde en sécurité depuis des millénaires. Si je dois les soumettre à un jugement, j'affronterai des ennemis armés de lames et de pouvoir. Ce n'est pas un problème, répondit Nin en se retournant. Je vous ai apporté une lame d'éclat de remplacement, parfaitement adapté à votre tâche ainsi qu'à votre tempérament. Il jeta sa grande épée à terre. Elle dérapa sur la pierre et vint s'arrêter devant Seth. Il n'avait encore jamais vu d'épée avec un fourreau métallique. De toute manière, qui gardait une lame d'éclat dans un fourreau? Quant à la lame elle-même, était-elle noire? 2 centimètres environ avaient émergé du fourreau tandis qu'elle glissait sur la pierre. Seth aurait juré voir un filet de fumée noire s'échapper du métal, comme de la fulgiflamme, mais noire. « Bonjour !» dit une voix enjouée dans son esprit. « Vous aimeriez aller détruire le mal aujourd'hui ?